Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est le fil conducteur de la semaine d'Emmanuel Macron. Du Parlement européen de Strasbourg à la chancellerie de Berlin, en passant par le palais des congrès d'Épinal dans le département des Vosges, le président français n'a pas ménagé ses efforts pour expliquer, plus de 6 mois après son discours de la PNIC à Athènes et celui de la Sorbonne, sa vision de l'Europe et ses propositions pour réformer, pour refonder l'Union, c'est comme ça qu'il dit. Plus de 6 mois qui semblent indiquer que ses projets n'ont pas beaucoup avancé, notamment pour des raisons de crise politique en Allemagne, où on se veut prudent sur la question. Emmanuel Macron va-t-il réussir à faire avancer et à concrétiser ses projets européens? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en discuter, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Sabine Tillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche d'Indre-et-Loire et présidente de la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée Nationale. Et Yannick Jadot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts. On va commencer par l'actualité la plus récente, c'est-à-dire ce déplacement à Berlin pour relancer ses projets de refondation de l'Europe. Emmanuel Macron et Angela Merkel se disent confiants dans la possibilité de trouver un accord d'ici au Conseil européen de la fin juin. Ça signifie qu'il faut encore discuter et que donc, il y a des points de désaccord, Sabine Tillet.
Mmh. Ben, bien sûr, il y a des points de désaccord. Je dirais, à mon avis, on a 3 sujets majeurs. Défense, sécurité, zone euro et migration, où il faut absolument qu'on trouve des points communs. Mais pour ça, il faut aussi être vraiment dans le dialogue. Je dirais aussi comprendre l'interculturalité et ne pas toujours vouloir imposer ses idées à l'autre. Ça vaut pour la France et ça vaut pour l'Allemagne. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une petite particularité, je suis franco-allemande, j'ai la double nationalité.
Soyez la bienvenue.
Je sais, merci beaucoup. C'est vrai que parfois c'est un peu difficile de se dire, j'ai un petit accent tout en étant députée française, mais pour moi c'est un grand honneur parce que je me dis, les relations franco-allemandes ont avancé, l'intégration européenne a, malgré tout ce qu'on dit, quand même avancé, si quelqu'un comme moi peut aujourd'hui être là comme ça devant vous.
Yannick Jadot, est-ce que vous ressentez, vous, cette difficulté pour le président français à faire avancer des projets? Alors vous allez nous dire ce que vous en pensez, c'est un petit peu difficile, quoi.
C'est difficile parce que l'Europe est dans une situation extrêmement difficile. On est sous présidence bulgare, il y a l'extrême droite dans le gouvernement. On va rentrer sous présidence autrichienne, il y a l'extrême droite dans le gouvernement. On a eu les élections en Hongrie, en Italie, il y a eu évidemment le Brexit. Donc on voit l'Europe à la fois qui apparaît aujourd'hui, qui n'est plus contestée comme espace économique. Même le Front National ne demande plus la sortie de l'euro. L'extrême droite en Italie ne conteste pas. Theresa May en Grande-Bretagne veut au fond rester dans l'Europe économique. Mais il y a des replis identitaires qui sont profonds. Parce que on a bousculé la population européenne avec une mondialisation qui est dure, une mondialisation qui fait perdre ses repères, une mondialisation aussi du libre-échange, on y reviendra sur le CETA et sur d'autres accords. Et donc du coup, il va falloir effectivement redonner du sens et de la force au projet européen. Le couple franco-allemand est indispensable. Pendant des années, on s'est interrogé est-ce que le couple franco-allemand était la base de la construction européenne. Aujourd'hui, c'est une évidence, avec l'Espagne qui est pris dans ses affaires d'indépendance avec un gouvernement qui n'est pas majoritaire, l'Italie qui a des difficultés, la Grande-Bretagne qui sort. Donc évidemment, le couple franco-allemand, mais un couple franco-allemand pour faire quoi? Si c'est un couple franco-allemand qui investit, y compris dans la transition énergétique, c'est fort. Si c'est un couple franco-allemand qui protège la santé, protège l'environnement, c'est fort. Si c'est un couple franco-allemand qui permet de sortir de la crise, pas des réfugiés, de l'accueil des réfugiés, à ce moment-là, c'est fort. Si c'est un couple franco-allemand technique, avec une Angela Merkel incontestablement engluée avec la CDU dans un repli nationaliste qu'on n'avait pas vu à la CDU depuis très longtemps, son parti politique. Et si c'est un Emmanuel Macron qui pose le bon diagnostic, qui donne de l'élan, mais dont les politiques pourraient être totalement contradictoires avec l'élan qu'il prétend donner, à ce moment-là, ça n'avancera pas et ce sera la catastrophe.
Alors, Sabine Tillet, dans cette rencontre aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, on a bien senti que ce qui coince, parce qu'il y a des points d'accord, évidemment, sur la question des réfugiés notamment, ce qui coince, c'est la réforme de la zone euro. C'est difficile pour Angela Merkel de convaincre sa majorité. Yannick Jadot en parlait actuellement.
Oui, bien sûr qu'elle a des difficultés. Il y a des difficultés internes aussi dans la CDU. Mais j'ai envie de revenir vers autre chose. Vous avez posé la question, est-ce que le président de la République va réussir ses projets européens? Mais ça dépend de nous les Européens. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Et c'est pour ça qu'on pose maintenant la question avec les consultations citoyennes. Quelle Europe voulons-nous? Est-ce qu'on voulait, on veut être ouvert? Est-ce qu'on veut se tirer en quelque sorte la couverture sur la tête? Et là, on est tous invités à réagir. Pas simplement, je dirais, nos chefs d'État et de gouvernement, les députés européens, avec les parlementaires nationaux aussi, parce qu'on a quand même depuis des années, et ça aussi c'est l'échec de l'Europe, européaniser les échecs et nationaliser les succès. Aujourd'hui,
ça se fait dans tous les pays. Hein.
Ouais, oui, dans tous les pays. Et je me en ai, et la solidarité, effectivement, elle en a pris un peu un coup avec ça. Et ça, tous les échelons en sont responsables de ça. Et moi, je me refuse d'aller aujourd'hui dans ce fatalisme. C'est pour ça que je me suis engagée pour la première fois de ma vie en politique, parce que en me disant, voilà, j'en ai assez d'avoir l'Europe honteuse. L'Europe, elle a des problèmes. Effectivement, il y a des choses à revoir. Mais bon sang, on peut être fier aussi, parce qu'on n'est pas devant rien. Et je crois qu'un parlementaire européen peut aussi confirmer qu'on a fait des avances.
Yannick Jadot, ces consultations citoyennes sur l'Europe, même si bon, on sent bien qu'il y a une petite arrière-pensée de préparation des élections européennes de l'année prochaine, est-ce que c'est une bonne chose pour discuter de ça ?
Que les gouvernements européens ouvrent le débat sur l'Europe, c'est une bonne nouvelle. Il faut effectivement éviter ce que pourrait être une dérive, c'est que ce soit une pré-campagne d'un parti politique, le parti politique En Marche. Ça casserait la dynamique et d'une certaine façon, ça discréditerait tout le processus. Mais je voudrais quand même revenir sur une chose. Vous dites, l'Allemagne et la France sont d'accord sur les migrants. Absolument pas. Enfin, excusez-moi, l'Allemagne a accueilli 1 million de migrants et la France ferme sa frontière
à l'Italie. C'est sûr.
Ferme sa frontière avec l'Italie, laissant les Italiens gérer 600 000 réfugiés avec ce sentiment que l'Europe ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de solidarité européenne dans l'accueil des réfugiés qui sont arrivés en Italie. Donc, on a contribué, nous, Français comme les autres, à l'arrivée de l'extrême droite en Italie. Mais il y a eu Emmanuel Macron, le président de la République, a fait un très beau discours au Parlement européen. Il a parlé de l'Europe qui protège, bien sûr. Il a parlé de souveraineté européenne. Je me bats depuis des années là-dessus. Il parle de souveraineté climatique, de souveraineté alimentaire. Simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est que, par exemple, au même moment que s'exprimait à Strasbourg le président de la République, s'exprimait à l'Assemblée nationale le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Mais, si vous voulez, le CETA... Quand on parle de souveraineté climatique, le CETA, c'est plus de gaz de schiste, plus de sable bitumineux. L'accord avec le Mercosur, c'est la déforestation terrible pour le climat. Le président de la République parle de souveraineté alimentaire. Mais le CETA et l'accord avec le Mercosur, c'est la mondialisation de la malbouffe, des élevages concentrationnaires, des antibiotiques. Donc, derrière les mots... Si on veut contrer le populisme, si on veut redonner l'espoir à notre jeunesse en Europe, il faut qu'il y ait des actes. Et les actes aujourd'hui qui sont posés, y compris par l'Europe, mais comme par ce président de la République et l'Assemblée, je ne sais pas si elle ratifiera le CETA ou pas, mais définiront l'espoir en Europe ou le désespoir.
Alors, Sabine Thillet, il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués par Jérôme Jadot, par Yannick Jadot, pardon.
De France Info.
Oui, absolument. On le salue s'il nous écoute. est-ce que justement, il faut avancer sur tous ces sujets ou est-ce qu'il y a, comme dans toute discussion européenne, des compromis qui sont à faire? Est-ce que, dans ce cas-là, on ne trahit pas un petit peu la cohérence, l'équilibre de l'ensemble des propositions du président de la République?
Non, mais il faut déjà, comme je disais, être dans le dialogue, savoir où est-ce qu'on peut être dans la complémentarité, où est-ce qu'on peut avancer. C'est d'ailleurs un des objectifs de la Commission des Affaires Européennes, de l'Assemblée Nationale, d'aller beaucoup plus dans le dialogue avec nos collègues, particulièrement avec nos collègues du Bundestag. On a eu une réunion commune la semaine dernière entre un groupe de travail transpartisan, tous les groupes politiques sont représentés, 9 députés français avec 9 députés allemands, où il y a même l'AFD qui est représenté, les Verts d'ailleurs aussi, et je m'entends très bien avec Franziska Brandner des Verts allemands.
Et, ils ont l'avantage d'avoir la proportionnelle en Allemagne,
voilà,
c'est
donc,
plus facile
donc,
d'avoir beaucoup d'élus.
On a eu un dialogue extrêmement constructif pour donner vie à l'accord parlementaire qu'on a conclu au mois de janvier. Ça, c'est un premier pas très concret. Comment se rencontrer et nous, parlementaires, travailler sur tous ces sujets-là, voir est-ce que les divergences sont telles qu'on ne peut pas les surmonter, ou est-ce que justement on peut arriver à avancer et justement pas laisser tout ça uniquement aux chefs d'État et de gouvernement?
Alors l'un des problèmes, hein, on en a parlé, vous avez commencé à en parler, c'est la situation d'Angela Merkel, sa situation politique locale, hein, son parti, la CDU-CSU, qui ne veut pas entendre parler d'une contribution allemande plus importante et qui tire un petit peu vers la droite du fait du climat politique en Allemagne. Il y a aussi le contrat de gouvernement avec le SPD qui met l'Europe en avant. Elle est sur une ligne de crête un peu compliquée, Angela Merkel, pour parler de ces questions-là, Yannick Jadot.
C'est vrai. Et quand elle a été élue, enfin quand après les élections législatives en Allemagne, sa première volonté, c'était de faire accord avec les écologistes, parce qu'elle voulait un partenaire très pro-européen. Et finalement, ce sont les centristes du FDP, des centristes ou historiquement des centristes libéraux, qui sont en train de devenir anti-européens, qui sont en train de devenir anti-migrants, anti-écolo, et qu'elle a été très déçue de ne pas pouvoir construire une alliance beaucoup plus pro-européenne. Mais encore une fois, là, si on veut sortir de la nasse européenne dans laquelle on est obligé de mettre plusieurs sujets sur la table. Il y a eu le sujet des travailleurs détachés, qui a évidemment, logiquement, froissé nos partenaires d'Europe de l'Est orientale. En revanche, par exemple, une politique de défense commune est un avantage extrêmement fort pour les mêmes partenaires qui ont évidemment peur de la Russie. Il nous faut passer de cette logique où on a quand même contraint tous les budgets européens, et notamment en Europe du Sud, par un budget d'investissement sur des sujets essentiels et utiles pour les Européens. Je l'ai dit, quand vous luttez contre le dérèglement climatique, vous créez des PME sur tous les territoires européens. Vous rénovez le bâtiment sur tous les territoires européens. Vous faites des transports collectifs sur tous les territoires européens. Donc, dans le sentiment des Européens, de nouveau, l'Europe est utile. L'Europe crée de l'emploi. L'Europe protège la santé. L'Europe protège la planète. Et c'est ce sentiment-là qu'il faut redonner aux Européens pour ne pas simplement se sentir un membre, un consommateur d'un grand marché, mais un citoyen d'un projet de civilisation.
Sabine Thillet, l'autre problème, et c'est lié d'ailleurs à la situation allemande, c'est la montée des extrêmes en Europe, on en a déjà un petit peu parlé. Comment est-ce qu'on peut refonder l'Europe quand on est dans une union avec des pays qui, manifestement, n'en veulent pas?
Bah, ça, on ne sait pas encore vraiment qui on veut pas. C'est un des buts de ces consultations citoyennes qui sont quand même transpartisanes. 27 États membres ont quand même donné leur accord pour les organiser.
On a quand même une idée pour la Hongrie, pour la Pologne, par exemple.
Bien sûr. Bien sûr, on a des, mais il faut les prendre au sérieux quand même. Il faut quelque part, je veux dire, il faut pas jeter non plus la pierre. Par contre, il faut être très ferme sur des valeurs qu'on a à défendre. On a un socle des valeurs sur lesquelles l'Union européenne s'appuie, et ça doit être non négociable.
Alors, les alliés naturels, et vous avez commencé à en parler, Yannick Jadot, en Europe pour une refondation de l'Europe, pour une réforme pour Emmanuel Macron, sont de moins en moins nombreux. On pense à l'Italie. Est-ce que ça oblige à une Europe à plusieurs vitesses, une Europe à géométrie variable en fonction des sujets? Est-ce qu'il faut...
Il y a toujours cette tentation finalement de faire un noyau dur qui potentiellement fait avancer l'intégration, renforce notre efficacité, que ce soit sur l'évasion fiscale, sur la question des GAFA, sur la question du climat ou je sais pas quel sujet, et convaincre les autres de venir dans ce cadre-là. Le problème, c'est que même, si vous voulez, la zone euro aujourd'hui est très divisée, et y compris sur la question des populismes. La Hongrie, vous l'avez raison, est un... produit dans son discours politique un sentiment profondément anti-européen, mais Orban ne fait pas l'erreur dans les négociations, dans la mise en œuvre des politiques européennes, de s'affranchir des disciplines européennes.
Donc la solidarité européenne, il l'apprend.
Ah non, mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que il faut mettre plusieurs chantiers en même temps sur la table. La Pologne, 3% de son PIB, ce sont les transferts de solidarité européens. Qu'on mette des conditionnalités à cette solidarité pour dire, ok, la solidarité, mais la solidarité dans un cadre qui respecte les valeurs de l'Union européenne, donc l'état de droit, les libertés individuelles, les droits de la femme, pas sérieusement menacés en Pologne, même chose pour la Hongrie, mais qu'on ose Parce que sinon, dans un monde, encore une fois, qui est tellement bousculé par la mondialisation, si on ne recrée pas et une industrie européenne et des emplois locaux, on va avoir tous les populistes, tous ceux qui sont les communautaristes, tous ceux qui sont sur le repli identitaire, qui vont gagner, et on aura une Europe qui ne sera plus qu'un marché, et il n'y aura plus aucune valeur. Et ça, ce serait le drame absolu, ce serait l'échec total du projet européen depuis 70 ans.
Cette conditionnalité que vous évoquez est une proposition du président de la République.
Et c'est une proposition que faisons au Parlement européen depuis longtemps.
Alors, il y a une question politique qui se pose, parce qu'actuellement, La République en Marche n'existe quasiment pas au Parlement européen. Je crois qu'il y a un eurodéputé qui s'est déclaré partisan d'Emmanuel Macron. Avec quels alliés Emmanuel Macron et La République En Marche peuvent s'allier au Parlement européen pour faire avancer ces projets? Ça ne sera pas les écologistes, vu le discours de l'eurodéputé belge Philippe Lamberts mardi, qui était assez vif, on va dire. Avec qui est-ce que Emmanuel Macron peut travailler pour faire avancer ces projets, Sabine Thillier?
Écoutez, moi, j'ai pas de boule de cristal par rapport à cette question qui revient vraiment très, très régulièrement. J'ai plutôt envie, déjà, laissons passer les consultations citoyennes, attendons qu'est-ce qu'il en sort pour savoir où est-ce qu'on met le curseur quant au programme et quant aux priorités qu'on veut que l'Union européenne assume. Et ensuite, voyons avec qui on peut réaliser ce programme.
Yannick Jadot, vous avez ce sentiment, vous, que bien il y a une tentation de la part de La République En Marche d'essayer de refaire aux européennes de l'an prochain le coup qui a été fait en 2017, phagocyter un petit peu les autres partis?
Il y a eu cette tentation, je crois qu'elle est en train de se diluer, parce que la réalité politique européenne, c'est un parti populaire européen, donc qui est la droite.
Le noyau dur, c'est CDU, voilà.
C'est avec, qui est totalement dirigé par les Allemands, et qui est le cœur aussi du travail du Parlement. Et vous avez vous savez, c'est toujours important de participer à un grand groupe. Donc, sortir d'un grand groupe, c'est perdre des moyens au Parlement européen. Donc, pour moi, ce que je vois, c'est que La République En Marche va rejoindre le groupe des libéraux et démocrates. C'est la tendance normale de ça.
C'est l'allié naturel, quoi.
Ça fera un groupe. L'idée de construire un groupe puissant qui s'exonère de l'existence de la politique européenne, j'y crois pas une seconde. Voilà, nous, vous savez, pour ma part, je défends autant la présence des écologistes dans les élections au Parlement européen. Parce que quand on gagne sur la pêche électrique, quand on gagne sur la protection des données personnelles, quand on gagne sur toutes les questions, la commission d'enquête sur l'évasion fiscale, le diesel, ou sur ces choses-là, c'est toujours des compromis qui se font, des majorités qui se forment sur des compromis. Et sur ces compromis-là, ce sont toujours les écologistes qui prennent l'avant-garde de la construction de ces compromis. Donc pour moi, il est important qu'il y ait des écologistes sur certains sujets. Évidemment, on fera alliance avec La République En Marche. Sur le libre-échange, clairement pas, parce qu'on n'a pas la même vision de la régulation, de la mondialisation et de l'impact sur ça. Peut-être sur la taxe sur les transactions financières, on n'est pas sur la même ligne non plus, parce que ce projet est en train de se diluer aussi au niveau européen. C'est grave, mais on fera sûrement des compromis, parce que c'est comme ça que se fait la politique à l'échelle européenne.
D'ailleurs, l'écologie, c'est pas l'apanage que des Verts. Nous, au Parlement, on vient d'adopter quand même une résolution pour l'interdiction de la pêche électrique, par exemple.
Oui, c'est très bien. Enfin, c'est nous qui l'avons gagné au Parlement européen.
Mais c'est toujours bien de porter une parole supplémentaire. Parce que nous sommes aussi
devant
nos électeurs dans les circonscriptions.
On est minoritaire. Donc, quand on réussit à faire passer nos idées dans la loi, c'est qu'on a construit des majorités autour de ces idées-là.
Merci à vous, merci Sabine Thillier, merci Yannick Jadot d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Anthony Bellard. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet www.rfi.fr et sur les plateformes mobiles, notamment avec l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine. Rejoignez le débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.